Frères et sœurs, en ce dimanche où nous entendons ce passage de l'Évangile de Marc, je souhaiterais que nous ayons dans l'oreille et dans le cœur ce qui précède immédiatement dans l'Évangile. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que tout ce que nous lisons aujourd'hui, tout ce que nous entendons, eh bien, se comprend, me semble-t-il, à partir de ce verset qui précède. Ce jeune homme qui, depuis qu'il est tout enfant, a pratiqué les commandements, qui se présente au Seigneur avec de grands biens, de grandes richesses, ces grands biens spirituels qu'il a accumulé, ses commandements dont il a vécu. Et pourtant, ces richesses matérielles et surtout spirituelles ne lui servent apparemment de rien. Il vient au Seigneur comme une sorte, je dirais presque d'ayant droit, de quelqu'un qui a déjà orné le temple intérieur de son âme de tant et tant de biens. Et il voudrait rajouter sans doute l'enseignement de ce rabbi qui parle avec autorité, de ce thaumaturge extraordinaire qu'est Jésus. Cela compléterait assez bien son univers intérieur, j'allais dire sa coquetterie spirituelle. Et le Seigneur lui propose tout autre chose, un renversement complet. Se rendre compte que ces richesses spirituelles, que ces richesses matérielles qu'il peut avoir ne sont rien. Rien par rapport à la sagesse de Dieu qui s'est faite chair et qui se manifeste en Jésus de Nazareth. Parce que la prière que nous avons entendue dans la première lecture, dans le livre de la sagesse, cette prière de Salomon, voilà qu'elle se réalise totalement dans le roi véritable, Jésus. Cette sagesse qui est en Dieu de toujours à toujours, le Verbe de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui de toujours à toujours est en Dieu, eh bien voilà qu'il se manifeste en Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il nous parle, il nous communique ce qu'il est, il nous communique l'Esprit Saint dont il est la source avec son Père. La prière de Salomon du livre de la sagesse est totalement exaucé. La parole de Dieu est là, sur les chemins des hommes. La parole de Dieu est là, vivante au milieu de nous, acérée comme une épée à deux tranchants, qui vient à la jointure et au moelle, qui vient ouvrir et casser ce que nous pensions être uni, ce que nous avions construit. Nous l'avons entendu dans la lettre aux Hébreux tout à l'heure. Et puis il y a dans cette lettre aux Hébreux aussi, la traduction est un petit peu faible, excusez-moi de faire le critique du texte et de la traduction, mais tout est nu devant elle, soumis à son regard. Le verbe qui est utilisé là, c'est celui du lutteur qui a gagné et qui est en train de projeter son adversaire les épaules contre le sol. Il ne peut plus rien. La parole de Dieu est de cet ordre-là. Elle vient révéler en nous une certaine incapacité, non pas décorer notre univers intérieur, non pas faire encore un effort pour accueillir plus de dons spirituels ou matériels, signe de la bénédiction de Dieu, mais elle vient révéler une incapacité, deuxième partie de notre texte aujourd'hui. Mais alors, qui peut être sauvé ? Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et notre Seigneur, de nouveau, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples, mais alors, qui peut être sauvé ? La parole de Dieu, frères et sœurs, le Verbe fait chair, Jésus ne vient pas simplement nous conforter dans ce que nous croyons de bon ou de bien. Il vient aussi nous mettre à terre. Il vient aussi nous renverser. Il vient aussi bouleverser nos certitudes celui qui est dernier sera premier, celui qui est premier sera dernier. Il vient pour un jugement, il vient pour remettre tout en ordre, mais non pas dans une simple continuité de nos valeurs, de nos manières de voir, mais il vient introduire au cœur de l'humanité autre chose, une autre logique. La logique où celui qui est pécheur peut devenir juste. La logique où celui qui se croit juste ne peut tenir de par sa propre justice. La logique où celui qui n'a rien est en réalité celui qui est le principal artisan du royaume. La logique où celui qui se croit fort est en réalité d'une faiblesse incommensurable. La réalité de celui qui croit pouvoir lutter et s'appuyer sur ses propres forces, mais qui par la parole de Dieu est renversé, jeté à terre, immobilisé, parce qu'un plus fort s'est manifesté, le Verbe fait chair. Alors oui, qui peut être sauvé? Qui d'entre nous peut se présenter avec ses bonnes œuvres face au Seigneur? Qui peut se faire valoir? Personne. Il n'y a face à Dieu, frères et sœurs, et j'espère que vous l'avez déjà senti de temps en temps dans votre existence de croyant, pas grand-chose qui tienne, et peut-être même rien du tout. Sauf cette seule réalité que Dieu nous veut avec lui, que Dieu veut nous faire grâce, que Dieu est vraiment ce Dieu bon, d'une bonté incommensurable, inimaginable, d'un amour que personne ne peut dire, et qui veut s'insérer dans notre existence, non pas quand tout va bien, non pas quand tout est bien lié, quand toutes les jointures sont en place, lorsque nous avons des bonnes œuvres à nous présenter, mais plutôt là où dans notre vie cela ne va pas, cela fait mal. Ces maux que nous traînons avec nous depuis des dizaines d'années, ces lieux où nous nous sentons perdants, où nous nous sentons faibles, ces lieux où nous nous disons « mais je ne peux pas être sauvé de cela ». Eh bien, frères et sœurs, c'est précisément là que Dieu veut intervenir. Oh, non pas pour nous remettre debout simplement avec notre petite gloriole personnelle « je m'en suis sorti » ou « j'ai maintenant de la force ». Mais Dieu veut nous remettre debout en disant « là, dans ta faiblesse, dans ta pauvreté, dans ce lieu de ta vie où ça ne va pas, où tu le sais, où tu as l'impression qu'il n'y a pas de salut, sache que je suis avec toi. » C'est le grand paradoxe, frères et sœurs, de la croix. À la fin de cet évangile, lorsque Pierre pose la question « Nul n'aura quitté à cause de moi », etc., le Seigneur de lui répondre, sans qu'il reçoive en ce temps-là le centuple, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Accueillir le Christ, frères et sœurs, c'est nous accueillir nous-mêmes, avec ces lieux qui crient vers Dieu « grâce, salut ». C'est accueillir le mystère de sa croix, de ce Seigneur qui est entré dans le lieu de la faiblesse la plus grande, celle de notre mort, celle de la remise de lui-même entre les mains de ses bourreaux, mais en réalité à ce Dieu qui est Père et qui fait grâce. C'est cela le paradoxe de nos vies, frères et sœurs. Dieu ne nous attend pas là où nous nous croyons bons, ou vrais, ou justes. Le Seigneur nous attend là où précisément nous sommes en rupture avec lui. C'est ce que toute la Bible nous crie du début jusqu'à la fin. Le Seigneur veut entrer dans ces lieux où nous sommes en rupture avec lui pour nous dire « je suis là aussi ». C'est la force de la résurrection que nous proclamons ce matin. Dans ce lieu de mort, du tombeau, dans ce lieu où le Seigneur a été placé par la violence et le péché de l'homme, c'est là où Dieu se manifeste comme vainqueur. Oui, nous choisissons le Seigneur. Oui, il est notre richesse. Oui, nous accueillons sa croix avec des persécutions, mais dans le monde à venir, la vie éternelle. C'est le grand paradoxe de notre condition chrétienne, frères et sœurs. S'appuyer sur lui, accepter de sortir de nos sécurités, de nos richesses, pour choisir de nous appuyer sur lui dans ce grand paradoxe de la croix. Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous libérer. Il se fait lui-même malédiction, il se fait lui-même péché, sans péché, mais il entre dans ce lieu pour nous tirer et nous mener à lui en vie éternelle. Crois-tu cela ? Crois-tu que ce que nous célébrons dans chacune de nos Eucharisties, le Seigneur qui s'engage au cœur de notre humanité, qui va jusqu'au bout, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, dans les lieux sordides de notre existence, et qui nous dit « Je suis ton Seigneur, ton Sauveur », avec des persécutions, avec cette croix, je peux te conduire à la vie éternelle.